Chapitre 3. Contact et atterrissage. 1. Eddie fut réveillé par la voix du copilote annonçant qu'ils allaient se poser à Kennedy International, où l'on jouissait d'une visibilité parfaite, où les vents soufflaient de secteur ouest à 15 km à l'heure, où la température dépassait agréablement les 21 degrés, et ce, dans 45 minutes environ. Il leur dit aussi, l'occasion risquant de ne pas se représenter, qu'il tenait à les remercier pour avoir choisi de voyager avec Delta. Eddie promena un regard autour de lui et, voyant les gens préparer leurs papiers, en provenance des Bahamas, un permis de conduire et une carte de crédit émise par une banque américaine étaient censés suffire, mais la plupart avaient leur passeport. Il sentit un fil d'acier qui en lui commençait à se resserrer. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il ait pu dormir et si profondément. Il se leva et gagna les toilettes. Bien qu'il les sentît fermement fixés sous ses bras, les sacs de coke ne lui causaient nulle gêne, épousant toujours le creux de chaque aisselle comme dans la chambre d'hôtel, où William Wilson, un Américain à la voix presque inaudible, les avait ajustés. Après quoi cet homme dont Edgar Poe avait rendu le nom célèbre, bien que l'allusion d'Eddie n'eût suscité qu'un regard niais chez l'homonyme, lui avait tendu la chemise. Une banale chemise écossaise aux couleurs légèrement passées, du genre qu'on peut s'attendre à voir sur le dos de n'importe quel étudiant de retour des courtes vacances précédant ses examens. À ceci près qu'elle avait été spécialement taillée pour dissimuler d'inélégants renflements. Histoire d'être sûr, il faudra vérifier que tout est bien en place avant de quitter l'appareil, avait dit Wilson. Mais vous ne devriez pas avoir de problème. Pour ce qui était des problèmes, Eddie ne savait pas s'ils allaient ou non en avoir, mais il avait une autre raison d'aller aux chiottes avant que ne s'allumât le « attachez votre ceinture ». Malgré la tentation, et non tant la tentation que l'exigeante brûlure du besoin, il s'était débrouillé pour épargner un ultime petit reste de ce que Machin Jaune avait eu l'audace d'appeler de la chinoise. Franchir la douane en provenance de Nassau ne tenait pas de l'exploit, comme lorsqu'on arrivait de Port-au-Prince ou de Bogota, mais on était quand même confronté à des gens qui avaient l'œil, à des experts. Il lui fallait mettre toutes les chances de son côté, s'il pouvait s'y présenter un peu plus calme, rien qu'un tout petit peu. Cela pouvait s'avérer décisif. Il prisa son restant de poudre, tira la chasse sur le petit tortillon de papier qu'il avait contenu et se lava les mains. Évidemment, si ça marche, tu ne sauras jamais dans quelle mesure ça a joué. Non, évidemment, mais il s'en foutait. Alors qu'il retournait à sa place, il vit l'hôtesse qui lui avait apporté son gin. Elle lui adressa un sourire qu'il lui rendit, puis il se rassit, boucla sa ceinture, prit la revue de la compagnie, la feuilleta, regarda images et titres. N'y trouva rien qui fît sur lui grosse impression. Ce filin d'acier continuait d'étreindre ses entrailles, et quand « attachez votre ceinture » finit par s'allumer, ça fit un double tour et ça serra le nœud. L'héroïne avait touché sa cible, les reniflements l'attestaient, mais il était sûr de ne pas la sentir. Une chose qu'en revanche il sentit peu avant l'atterrissage fut une autre de ses troublantes absences. Courte, mais incontestable. Le 727 vira sur l'aile au-dessus de Long Island et amorça la descente. 2. Dans l'office de la classe affaires, Jane Downing aidait Peter et Anne à ranger les derniers verres servis quand le type qui ressemblait à un étudiant s'était rendu dans les toilettes des premières. Alors qu'il regagnait sa place, elle écarta le rideau séparant les deux classes et pressa instinctivement le pas pour le croiser en souriant, l'amenant à lever les yeux et à lui rendre son sourire. Les yeux du trois étaient redevenus noisettes. « Bon, parfait. Il est allé aux chiottes pour les retirer avant de piquer un petit somme, puis il est retourné pour les remettre. Je t'en prie, Jenny, ne sois pas idiote. » Mais elle ne l'était pas. Il y avait là quelque chose qui lui était impossible de cerner, mais elle n'était pas idiote. « Il est trop pâle. Et alors ? Il y a des tas de gens qui sont trois pales, y compris ta propre mère, depuis que sa vésicule déraille. Il avait les yeux d'un bleu troublant. Pas aussi mignon qu'avec les verres de contact noisette, mais troublant, pour sûr. Alors pourquoi s'être ruiné à en changer la couleur? Parce qu'il aime modeler son apparence. Ça ne te suffit pas comme explication? Non. Peu avant le attacher votre ceinture et la contre-vérification finale, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et le fit en pensant à la vieille routière du ciel de l'école des hôtesses. Elle remplit de café brûlant une thermos qu'elle négligea de reboucher, n'en revissant qu'à peine le capuchon de plastique rouge. Ces jets de glace annonçaient l'approche de l'avion, expliquant aux bestiaux qu'ils allaient avoir à éteindre leurs cigarettes et arranger leurs affaires, qu'un agent de la compagnie les réceptionnerait au sol, qu'il leur fallait vérifier s'ils avaient les pièces exigées pour débarquer aux États-Unis et qu'on allait passer ramasser tasses, verres et casques. « Bizarre qu'on n'ait pas à vérifier s'ils n'ont pas fait pipi dans leurs culottes », s'étonna distraitement Jane. Elle avait son propre fil d'acier qui lui garrottait les entrailles. « Prends mon tour », dit-elle à Suzy qui raccrochait le micro. Suzy jeta un coup d'œil à la thermos puis regarda Jane. « Ça va pas, Jane ? T'es blanche comme un... »« Si, si, ça va. Prends mon tour. Je t'expliquerai quand tu reviendras. » Elle balaya des yeux les strapontins près de la portière gauche. « J'ai envie de faire une balade à moto sur le siège arrière. »« Mais Jane, prends mon tour, c'est tout. »« Bon, » fit Suzy. « D'accord, pas de problème. » Jane Dorning se laissa choir sur le strapontin qui jouxtait l'allée et négligea de s'attacher. Elle voulait garder sur la thermos un contrôle total et la tenait en conséquence à deux mains. Pas question de la lâcher pour boucler le harnais. Suzy doit se dire que je débloque. Et elle espérait qu'il en fût ainsi. Si le commandant MacDonald n'atterrit pas en douceur, je suis bonne pour avoir des cloques plein les mains. C'était un risque à courir. L'avion perdait rapidement de l'altitude. Soudain, le 3A, le passager au teint pâle et aux yeux bicolores, se pencha pour extraire un sac de sous son siège.
« Nous y sommes !» se dit Jane. « C'est là-dedans qu'il transporte sa grenade ou son arme automatique ou je ne sais quoi !»
Et à l'instant où elle vit le sac, à cet instant précis, d'une main légèrement tremblante, elle dégagea de son pas de vis le capuchon de plastique rouge de la thermos. Il allait y avoir un petit copain d'Allah sacrément surpris de se retrouver par terre dans l'allée avec la figure ébouillantée. Le 3A ouvrit son sac. Jane se tint prête. 3. Le pistolero songea que cet homme, prisonnier ou non, était probablement plus doué pour le grand art de la survie que tous ceux qu'il voyait autour de lui dans la diligence du ciel. Les autres étaient dans l'ensemble du genre adipeux, et même ceux qui paraissaient jouir d'une forme physique acceptable s'associaient à quelque chose de relâché dans leurs traits. À des visages d'enfants gâtés, d'hommes qui finiraient par se battre, mais pas avant d'avoir gémi et pleurniché pendant des siècles. Des gens dont on pouvait mettre les tripes à l'air sans que leur ultime expression trahît la rage ou la souffrance. Rien que la surprise, éberluée. Prisonnier était mieux, mais pas encore assez bon. Loin de là. La soldate... Elle a vu quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça ne lui a pas semblé normal. Elle a une façon bien particulière de le regarder. Le prisonnier s'assit et se mit à feuilleter un livre à la couverture souple qu'il associait mentalement au mot « canard ». Analogie qui échappa au pistolero et dont le décryptage lui parut sans intérêt. Roland n'avait aucune envie de regarder un livre d'images, si surprenant que fussent de tels objets. C'était la femme en uniforme qu'il voulait surveiller. Son désir de bondir au premier plan, prendre les commandes, ne cessait de croître, mais il se retint. Du moins, pour le moment. Le prisonnier était allé quelque part et en rapportait une drogue. Pas celle qu'il prenait lui-même, ni rien qui soit susceptible de combattre le poison dont se mourait le pistolero, mais une autre que les gens payaient à prix d'or parce qu'elle était illégale. Cette drogue, Il allait la remettre à son frère, qui, à son tour, la donnerait à un homme nommé Balazar. La transaction serait complète quand Balazar leur aurait remis la drogue qui les intéressait en échange de celle qu'il lui apportait. Mais ce, à la seule condition que le prisonnier s'acquittât correctement d'un rituel inconnu du pistolero. L'un de ces singuliers rituels dont un monde aussi étrange que celui-ci ne pouvait que regorger. Un rituel auquel se référait l'expression « passer la douane ». Mais cette femme l'a repéré. Pouvait-elle l'empêcher de passer à la douane? Roland estima que la réponse était probablement affirmative. Et ensuite, la détention, bien sûr. Et si son hôte moisissait au fond d'une cellule, il n'était plus question de trouver ce médicament dont son organisme infecté avait besoin. « Il lui faut passer la douane, » se dit le pistolero. « Il le faut. Il lui faut accompagner son frère chez ce Balazar. Ce n'est pas prévu dans leur plan et son frère ne va pas aimer ça, mais il le faut. » Parce qu'un homme qui s'occupait de drogue avait de fortes chances de connaître, ou d'être lui-même, une personne apte à guérir les maladies. Quelqu'un qui pourrait percevoir ce qui n'allait pas et réussirait. Peut-être. Oui, il lui faut passer la douane, se dit le pistolero. La réponse était si gigantesque, à ce point évidente et à sa portée, qu'il faillit ne pas la voir. Si le passage de la douane s'annonçait difficile pour le prisonnier, c'était bien sûr à cause de cette drogue qu'il transportait. Il devait y avoir sur les lieux de la cérémonie une sorte d'oracle que l'on consultait lorsqu'on avait affaire à des gens suspects. Dans les autres cas, comprit Roland, le passage était la simplicité même, comme de franchir la frontière d'un pays ami dans son propre monde. Un simple geste purement symbolique, d'allégeance au monarque de ce royaume suffisait pour y être admis. Bon. Se sachant en mesure d'emporter dans son univers des objets matériels appartenant à celui du prisonnier, le petit pain au thon l'avait prouvé, il allait faire de même avec les sacs de drogue. Le prisonnier passerait la douane, après quoi Roland lui rendrait les sacs. Mais le pourras-tu ? Oh, question assez troublante pour lui faire oublier le spectacle de toute cette eau en bas. Après avoir survolé ce qui semblait être un immense océan, il venait d'effectuer un virage en direction de la côte, et avec régularité, maintenant, les flots se rapprochaient. La diligence du ciel descendait, et au regard superficiel d'Eddie pour lequel ce spectacle était des plus ordinaires, se superposait celui du pistolero, fasciné comme un enfant devant sa première neige. Oui, il pouvait emporter des choses de ce monde, mais les rapporter, voilà qui restait à prouver. Il plongea la main dans la poche du prisonnier, referma les doigts sur une pièce de monnaie, puis il refranchit la porte. 4. Les oiseaux s'envolèrent quand il se redressa. Cette fois, ils étaient prudemment restés à quelque distance. Il avait mal, se sentait vaseux, fiévreux, et néanmoins bien plus revigoré qu'il n'aurait pu s'y attendre après l'ingestion d'une aussi faible quantité de nourriture. Il ouvrit la main et regarda la pièce qu'on aurait prise pour de l'argent si des reflets rougeâtres sur la tranche n'avaient trahi quelque métal plus vil. Elle était frappée au profil d'un homme dont les traits respiraient noblesse, courage et persévérance, mais dont la coiffure, à la fois bouclée au-dessus de l'oreille et serrée en queue sur la nuque, suggérait un rien de coquetterie. Roland la retourna et sur l'autre face vit quelque chose qui lui arracha un cri étranglé. Un aigle, le blason qui avait orné sa propre bannière dans ce passé déjà bien estompé où il y avait encore eu des royaumes et des bannières pour en être le symbole. Le temps presse. Retourne là-bas, vite. Mais il s'attarda encore un moment. Réfléchir dans cette tête présentait certaines difficultés, car si l'esprit du prisonnier était loin d'être clair, son crâne, temporairement du moins, offrait un cadre plus propice à la pensée que celui du pistolero. Essayer de transporter la pièce dans les deux sens ne constituait qu'une moitié de l'expérience, non ? Il prit une cartouche dans l'un des ceinturons et la serra contre la pièce au creux de sa paume. Puis, une fois de plus, il franchit la porte. 5. La pièce du prisonnier était toujours là dans le double écrin de sa main et de sa poche. Roland n'eut pas à passer au premier plan pour vérifier ce qu'il en était de la cartouche. Il savait qu'elle n'avait pas fait le voyage. Il n'en bondit pas moins à l'avant, brièvement, parce qu'il lui fallait savoir quelque chose, voir quelque chose. Aussi se retourna-t-il, comme pour rectifier la position du truc en papier qui garnissait le dossier de son siège. Par tous les dieux qui avaient eu quelque existence, il y en avait du papier partout dans ce monde, et jeta un coup d'œil par la porte. Il vit son corps, de nouveau affalé à terre, mais avec un filet de sang frais qui coulait à présent d'une coupure à la joue. Sans doute venait-il de se l'entailler sur un caillou. La cartouche qu'il avait essayé d'emporter avec la pièce gisait sur le sable au pied de la porte. La réponse était néanmoins satisfaisante. Le prisonnier allait pouvoir passer la douane. Leurs hommes du guet auraient beau le fouiller de la tête aux pieds, de la bouche au trou du cul, ils ne trouveraient à rien. Le pistolero se réinstalla confortablement chez son hôte, content de lui et inconscient, du moins pour l'heure, de ce qu'il n'avait pas encore saisi toutes les dimensions du problème. 6. Le 727 effectua son approche en souplesse au-dessus des salines de Long Island, abandonnant derrière lui les traînées de suie du carburant consumé. Son train d'atterrissage descendit, grondement suivi d'un choc sourd. 7. Le 3A, celui qui avait les yeux de deux couleurs, se redressa et Jane lui vit entre les mains, vit pour de bon, un pistolet mitrailleur au profil compact avant de s'apercevoir qu'il s'agissait seulement de la carte de déclaration en douane et d'une de ces petites pochettes qu'utilisent les hommes pour ranger leurs papiers. L'avion se posa sur du velours. Parcouru d'un frisson convulsif, Jane revissa complètement le capuchon de la thermos. « Tu peux me traiter d'andouille, » glissa-t-elle à Suzy tout en bouclant le harnais maintenant qu'il était trop tard. Elle avait informé sa collègue de ses soupçons afin qu'elle se tînt prête. « Tu en as parfaitement le droit. »«
Non, » dit Suzy, « tu as fait tout ce qu'il fallait. »«
J'en ai trop fait. »« Du coup, je suis bonne pour te payer le resto. »« Ça, tu les couperas pas. »«
Mais arrête de le regarder. » « Regarde-moi !»
Et souris, Jenny.
Jane sourit, hocha la tête, se demanda ce qu'allait se passer maintenant.
« Tu regardais ses mains, » reprit Suzy, puis elle rit, et Jane se joignit à elle.
« Moi, je regardais sa chemise quand il s'est baissé pour ouvrir son sac. Il a sous les bras de quoi approvisionner tout un rayon du Woolworth. » Sauf que c'est pas le genre d'article qu'on trouve en magasin, je crois.
Jane rejeta la tête en arrière et rit de nouveau, se faisant l'effet d'être une marionnette.
Comment on s'y prend ?
Suzy était son aînée de 5 ans dans la carrière de Tess, et Jane, qui quelques instants auparavant avait estimé avoir la situation en main, du moins sur le mode désespéré, était à présent bien contente d'avoir Suzy près d'elle.
Ça, « ça n'est pas notre problème. Tu vas tout raconter au commandant pendant qu'on nous remorque. Il en parlera aux douanes. Ton petit copain va faire la queue comme tout le monde, sauf qu'à un moment donné, des hommes vont le faire sortir du troupeau pour l'escorter jusqu'à une petite pièce. Et je crains que ce ne soit pour lui la première d'une très longue série de petites pièces. »
« Seigneur !»
Jane continuait de sourire, mais elle était parcourue de frissons tour à tour brûlants et glacés. Elle enfonça le bouton qui la libérait du harnais tandis que les rétrofreins commençaient à s'essouffler, tendit la thermos à Suzy, puis se leva et alla frapper à la porte du poste de pilotage.
pas un terroriste, mais un trafiquant de drogue. Merci, mon Dieu, pour cette petite aubaine. Pourtant, en un sens, c'était affreux. Elle l'avait trouvé mignon. Pas très mignon, mais un peu.
8. Dieu du ciel, il ne s'est toujours aperçu de rien, songea le pistolero rageur dans un désespoir naissant. Eddie s'était penché afin de prendre les papiers dont il avait besoin pour le rituel, et quand il avait relevé les yeux, la soldate le regardait, les yeux exorbités, les joues blanches comme le papier revêtant le dossier des sièges. Le tube d'argent au capuchon rouge que Roland avait d'abord pris pour une sorte de gourde lui faisait maintenant l'effet d'une arme. Elle tenait l'objet à hauteur de ses seins. Il se dit que, d'un instant à l'autre, elle allait le lancer ou en dévisser la coiffe et lui tirer dessus. Puis il la vit se détendre et boucler le harnais, bien qu'un choc sourd les eût tous avertis que la diligence du ciel s'était posée. Elle se tourna pour dire quelque chose à l'autre fille de l'armée qui s'était assise à côté d'elle et qui se mettait à présent à rire en hochant la tête. Mais si c'était là un rire franc, Roland voulait bien être un crapaud des rivières. Il se demandait comment l'homme dans l'esprit duquel son cas de pistolero avait élu domicile pouvait être aussi bête. En partie à cause de ce qu'il se mettait dans le corps, bien sûr. Une diversion locale de l'herbe du diable. En partie seulement, car sans être stupide au même point que les autres, il pouvait se montrer inattentif et mou, comme eux. Ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils vivent dans la lumière, se dit soudain le pistolero. Cette lumière de la civilisation qu'on t'a appris à révérer par-dessus tout. Il vit dans un monde qui n'a pas changé. Si c'était là le type de citoyen qu'engendrait un tel monde, Roland n'était pas sûr de ne pas lui préférer celui des ténèbres. « Avant que le monde n'eût changé », disaient les gens de cet univers, et ils le disaient toujours sur un ton de poignante nostalgie. Mais peut-être s'agissait-il d'une tristesse absurde, irréfléchie. Elle a cru que il avait l'intention de sortir une arme quand il s'est penché pour reprendre les papiers. Quand elle les a vus, elle s'est détendue, a fait ce que tout le monde avait fait avant que la diligence ne touche le sol. Maintenant, elle et son ami sont en train de causer et de rire, mais leur expression, et particulièrement celle de la soldate qui tient le tube de métal, dit autre chose. Elles parlent, d'accord, mais elles ne font que semblant de rire, pour la simple raison que le sujet de leur conversation, c'est moi, lui. Le véhicule céleste roulait à présent sur ce qui avait toutes les apparences d'une longue route cimentée. Si essentiellement rivé que fût son attention sur les deux femmes, le pistolero voyait çà et là du coin de l'œil d'autres diligences sur d'autres chaussées similaires. Certaines se traînaient, d'autres filaient à une vitesse incroyable, comme celle de projectiles jaillis d'un revolver ou d'un canon, prenant leur élan pour bondir dans les airs. En dépit du tour critique pris par sa situation, une part de son être brûlait du désir de passer au premier plan et de tourner la tête pour suivre leur envol. C'étaient des machines de facture humaine, mais non moins fabuleuses que dans les histoires du grand plumeux, qui était censé avoir vécu dans le lointain et probablement légendaire royaume de Garlan. Peut-être même plus fabuleuses pour la simple raison que des hommes les avaient fabriquées. La femme qui lui avait apporté le popkin décrocha son harnais, et ce, moins d'une minute après l'avoir bouclé. Puis se dirigea vers une petite porte. « C'est là qu'est le cocher, » se dit-il. Mais quand la porte s'ouvrit et que la femme entra, il s'aperçut qu'il en fallait apparemment 3 pour conduire la diligence du ciel. Le bref coup d'œil qu'il put jeter sur ce qui semblait être un bon million de cadrans, de manettes et de petites lumières, suffit d'ailleurs à lui faire comprendre pourquoi. Son hôte regardait tout ça, mais ne voyait rien. Cort aurait commencé par l'accabler de sarcasmes avant de l'expédier contre le mur le plus proche.
L'esprit du prisonnier était entièrement requis par l'extraction du sac de sous le siège, par l'acte de retirer une veste légère du placard ménagé dans le plafond et par la perspective du rituel auquel il allait être confronté.
Un soldat l'a d'abord pris pour un voleur ou pour un fou. Il a dû, ou peut-être est-ce moi, oui, c'est plus probable, faire quelque chose qui a éveillé ses soupçons. Ensuite, elle a changé d'avis. Puis, l'autre femme l'a ramenée sur sa première impression. Sauf que maintenant, à mon sens, elles savent précisément ce qui cloche. Oui, elles ont compris qu'il va tenter de profaner le rituel. Et ce fut alors que, dans un éclair, il mesura toute l'ampleur du problème. Primo, le transfert des sacs dans son monde n'allait pas être aussi simple que celui de la pièce. Celle-ci n'adhérait pas au corps du prisonnier, maintenu par cette lanière collante dont le jeune homme s'était entouré le torse pour se plaquer les sacs sur la peau. Et il y avait un second dos. Son hôte n'avait pas remarqué la disparition temporaire d'une pièce parmi d'autres. Mais quand il se rendrait compte que ce pourquoi il risquait sa vie s'était envolé, il allait à coup sûr se poser des questions. Il était plus qu'envisageable qu'il se mit à agir de manière insensée, avec pour effet de l'expédier au fond d'une cellule aussi promptement que s'il avait été pris en flagrant délit de profanation. Le choc promettait d'être assez grave. De cette pure et simple disparition des sacs, il allait probablement déduire qu'il venait de verser dans la démence. La diligence du ciel, simple charrette à présent qu'elle roulait sur le sol, se traîna dans un virage à gauche. Roland prit conscience de ne pouvoir s'offrir le luxe de pousser plus loin ses réflexions. Il lui fallait dépasser ce stade d'observateur à l'avant-plan. Il devait entrer en contact avec Eddie Dean. Immédiatement.
9. Eddie rangea sa carte de déclaration en douane et son passeport à portée de main dans la poche de sa chemise. Le fil d'acier s'enroulait régulièrement autour de ses tripes, mordant de plus en plus profond jusqu'à faire grésiller ses nerfs d'étincelles. Et soudain, dans sa tête, une voix parla. Pas une pensée. Une voix. Écoute-moi, l'ami. Écoute-moi bien. Et si tu ne veux pas que ça tourne à la catastrophe, tâche de ne rien laisser paraître qui pourrait accroître les soupçons des deux soldates. Elles n'en ont déjà que trop. Eddie commença par se dire qu'il avait oublié d'enlever le casque fourni par la compagnie et qu'il y recevait par erreur quelques messages venus du poste de pilotage. Puis il se rappela qu'une hôtesse était passée ramasser les écouteurs 5 minutes auparavant. Sa deuxième explication fut qu'il y avait quelqu'un debout à côté de lui en train de parler. Il faillit tourner brusquement la tête, mais se retint. C'était absurde. La simple vérité, qu'elle lui plût ou non, était que cette voix résonnait à l'intérieur de son crâne. Mais peut-être s'agissait-il effectivement d'une interférence d'ondes AM, FM ou VHF captée par les plombages de ses molaires. Il avait entendu dire que de telles... Tiens-toi droit, larve. Ces femmes sont déjà assez méfiantes sans que tu aies par-dessus le marché l'air d'un vrai dingue. Eddie se redressa d'un bloc, comme s'il venait d'être frappé. Ce n'était pas la voix de Henry, mais il y avait perçu une étonnante ressemblance avec celle de son frère, du temps où ils n'étaient que deux gosses grandissant au pied des logements sociaux de la cité. Deux garçons avec 8 ans d'écart, et dont la sœur, après avoir tenu la moyenne entre eux, n'avaient désormais place que dans leurs souvenirs. Célina s'était fait écraser alors qu'Eddie avait 2 ans et Henry 10. Ce ton âpre, péremptoire, explosait chaque fois que le grand frère voyait son cadet faire quelque chose susceptible de mal se terminer et de le faire se retrouver au fond d'une caisse en sapin bien avant l'heure. Comme Célina. Mais bordel de merde, qu'est-ce qui se passe ? « D'abord, dis-toi bien que tu n'entends pas des voix, » répondit la voix dans sa tête. « Définitivement pas celle de Henry. Plus âgée, plus sèche, plus forte. Mais très proche quand même de celle de son grand frère. Impossible de ne pas l'écouter. » Tu n'es pas en train de devenir fou.
Je suis une autre personne.
C'est de la télépathie. Eddie était vaguement conscient de conserver un visage totalement inexpressif. Il se dit que, vu les circonstances, cela aurait pu lui valoir l'Oscar du meilleur acteur. Il jeta un coup d'œil par le hublot et vit que l'avion se rapprochait du corps de bâtiment réservé à la compagnie Delta.
Je ne connais pas ce mot. Mais ce que je sais, c'est que les deux soldats sont au courant de ce que tu as sur toi.
Il y eut un temps d'arrêt, une sensation étrange, inexprimable, de doigts immatériels compulsant son cerveau, comme s'il était un fichier vivant.
De l'héroïne ou de la cocaïne? Impossible de préciser, sinon...
Oui, sinon que ce doit être de la cocaïne parce que tu n'en prends pas, tu ne fais qu'en transporter pour payer ce que tu consommes.
Quel soldat ! Marmonna Eddie entre ses dents sans s'apercevoir qu'il parlait tout haut.
Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, comme de nouveau cette impression de recevoir une gifle, si nette qu'il en garda des tintements dans les oreilles.
Tu vas la fermer, connard.
Ouais, ok.
Et encore une fois, ses doigts qui farfouillaient.
Les cantinières, reprit la voix de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas le temps d'étudier tes pensées en détail, prisonnier.
Qu'est-ce qui vous... commença Eddie, puis il se tut.
Pourquoi vous m'appelez comme ça?
Laisse tomber. Tu m'écoutes, c'est tout.
On n'a vraiment pas le temps.
Ces cantinières ont tout compris. Elles savent que tu as cette cocaïne.
Ridicule, comment pourraient-elles le savoir? J'ignore comment elles en ont eu connaissance. Et d'ailleurs, peu importe. L'une d'elles est allée le dire au cocher. Les cochers vont le répéter au prêtre qui préside à cette cérémonie, le passage de la douane.
La langue dans laquelle s'exprimait la voix tenait du mystère avec ces termes si décalés qu'ils en étaient presque charmants. Mais le sens qu'il véhiculait n'en était pas moins net, massif et clair. Même si rien ne transparut sur ses traits, Eddie sentit ses dents se verrouiller dans un claquement douloureux et filtrer une petite inspiration brûlante. La voix lui disait qu'il avait perdu la partie. Il était encore dans l'avion et il avait déjà perdu la partie.
Mais non, c'était pas vrai, ça pouvait pas être vrai. C'était juste dans sa tête, un petit numéro de paranoïa qu'il se jouait, in extremis. Suffisait de pas y faire attention. Voilà, il n'allait pas y faire attention, et ça passe. Tu vas y faire attention, sinon tu iras en prison, et moi je mourrai !
Rugit la voix.
Mais au nom du ciel, qui êtes-vous ?
Demanda Eddie de mauvaise grâce, la peur au ventre. Et dans sa tête, il entendit quelqu'un ou quelque chose exhaler un soupir de soulagement.
10.
Il y croit, pensa le pistolero. Que soient remerciés tous les dieux qui ont eu jamais quelque existence. Il y croit.
11. L'appareil s'immobilisa. L'ordre d'attacher sa ceinture s'éteignit. La passerelle vint s'appliquer dans un choc amorti contre la porte avant. Ils étaient arrivés.
12. Il y a un endroit où tu peux mettre ce que tu as pendant que tu t'acquittes du passage de la douane, dit la voix. Un endroit sûr. Ensuite, après la cérémonie, tu pourras le récupérer pour le porter à ce Balazar.
Les gens se levaient à présent, sortaient leurs affaires des coffres qui les surplombaient, s'arrangeant au mieux de vêtements qui faisaient trop chaud pour porter à l'extérieur, du moins s'il fallait en croire l'annonce faite par les pilotes.
« Ramasse ton sac et prends ta veste, puis retourne dans les latrines. »«
Les toilettes, les chiottes. »« S'ils sont persuadés que j'ai de la dope, ils vont croire que j'essaie de m'en débarrasser. » Eddie comprenait toutefois que ce point n'avait guère d'importance. Personne n'irait enfoncer la porte au risque de déclencher une panique chez les passagers. Et il était exclu de pouvoir jeter un kilo de poudre dans des WC d'avion sans laisser de traces. À moins que la voix n'ait pas menti, qu'il existât un endroit sûr. Mais comment serait-ce possible ? Laisse tomber ! Remue-toi ! Eddie se remua, parce qu'il avait fini par prendre conscience de la situation. Bien sûr, il ne voyait pas tout ce que Roland décelait de par ses années d'expérience et cet entraînement où s'étaient mêlées tortures et précisions, mais il voyait le personnel, il voyait les vrais visages derrière les sourires et les serviables restitutions aux passagers des bagages déposés à l'entrée. Il remarquait la manière dont sans cesse leurs yeux voltaient pour venir se poser sur lui, furtivement, comme pour mieux l'aiguillonner. Il prit son sac, sa veste. On avait ouvert la porte donnant sur la passerelle et les gens commençaient à remonter l'allée. La porte de la cabine de pilotage s'était également ouverte et le commandant se tenait sur le seuil, souriant bien sûr, mais dévisageant aussi les passagers de première classe qui en étaient encore à rassembler leurs affaires, le repérant soudain, non, le prenant pour cible, puis, regardant ailleurs, adressant un signe de tête à quelqu'un et bourrifant au passage les cheveux d'un gamin. Eddie était parfaitement froid maintenant. Pas en manque, froid, tout court. Froid, c'était parfois très bien. Il fallait seulement faire attention de ne pas arriver à geler sur place. Il avança, remonta jusqu'au point où un virage à gauche allait l'engager sur la passerelle, puis porta soudain la main à sa bouche.
« Oh, je ne me sens pas bien, » marmonna-t-il.
« Pardon. » Il repoussa la porte de la cabine de pilotage qui, sur sa droite, lui barrait en partie l'accès des toilettes et ouvrit la porte de ces dernières. « Je crains que vous n'ayez à quitter l'appareil, » lui fit sèchement remarquer le pilote alors qu'il avait déjà un pied dans les WC. « Vous n'êtes, je crois que je vais vomir, et je ne tiens pas à ce que ça soit sur vos chaussures, » rétorqua Eddie, « ni sur les miennes. » Une seconde plus tard, il était à l'intérieur, loquet abattu. Le commandant parlait toujours. Eddie ne comprenait pas ce qu'il disait, ne voulait pas le savoir. Mais c'était des mots et non des cris, et cela seul comptait. Il ne s'était pas trompé. Personne n'allait se mettre à hurler avec peut-être 250 passagers qui attendaient de débarquer par cette unique porte à l'avant. Ainsi, enfermé dans les toilettes, il ne risquait rien pour un temps. Mais en était-il plus avancé ? « Si vous êtes toujours là, pensa-t-il, vous feriez mieux de faire quelque chose au plus vite, qui que vous soyez. » L'espace d'un épouvantable instant, il n'y eut rien. Rien du tout. Ce fut très court, mais ça parut néanmoins s'étirer presque à l'infini dans sa tête, comme ces rubans de guimauve qu'Henry lui payait parfois l'été quand ils étaient gosses. Faisait-il des bêtises que son frère le battait comme plâtre ? Était-il sage qu'il lui payait des guimauves ? C'était ainsi qu'Henry assumait le surcroît de responsabilité que lui apportaient les grandes vacances. « Oh, mon Dieu, oh Seigneur, j'ai tout inventé. Comment ai-je pu me mettre à débloquer ? Tiens-toi prêt !» fit la voix sévère. « Je ne peux pas faire ça tout seul. Je sais monter au premier plan, mais il m'est impossible de te faire traverser. Tu vas devoir effectuer la manœuvre avec moi. Tourne-toi. » La vue d'Eddie se retrouva soudain véhiculée par deux perdus, et ses sensations gouvernées par deux arborescences nerveuses. Mais tous les nerfs de l'étranger n'étaient pas là, une partie de ce corps manquait, mutilation toute fraîche qui hurlait sa souffrance, appréhendant le monde par 10 sens, pensant avec 2 cerveaux, le sang fusant dans ses artères au rythme d'un double cœur. Il se tourna et découvrit une ouverture découpée dans la cloison, quelque chose qui ressemblait à une porte, donnant sur une grève de gros sable gris, sur les rouleaux pisseux qui s'y brisaient. Et ces vagues, il les entendait. Comme il avait dans les narines cette senteur saline aussi amère que des larmes. Passe. On frappait à la porte des toilettes, on lui disait de sortir, qu'il devait immédiatement quitter l'appareil. Mais vas-y, merde ! Eddie franchit le seuil en maugréant, perdit l'équilibre et bascula dans un autre monde.